le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 11 novembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, crise politique et crise humanitaire aux portes de l'Europe. Les migrants massés en Biélorussie. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Nous sommes en direct à la frontière polonaise dès le début de ce journal. Et on en parlera avec votre invité à 7h50, Léa.
Oui, comment en est-on arrivé là? Que peut et que doit faire l'Union européenne? Parole au désormais député européen Bernard Guetta sera avec nous à 7h50.
Et les autres titres, Anaïs.
Le ministre de la Santé n'hésite plus à dire le mot 11 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Ça ressemble au début d'une cinquième vague, vous l'entendrez. Le meurtrier de Mireille Knoll, reconnu coupable de crimes antisémites, condamné à la perpétuité. Des mairies qui rachètent théâtre ou boîte de nuit, dernier exemple, Tango à Paris. Et puis Paris Photo ouvre ses portes, c'est la plus grande foire mondiale de la photo.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec deux historiens, Pascal Horry, Nicolas Offenstadt, pour parler de cette journée mémorielle du 11 novembre, à l'Arc de Triomphe, au Mont Valérien. On évoquera aussi, bien sûr, la résurgence de la Seconde Guerre mondiale dans le débat politique de cette pré-campagne présidentielle. Vos questions, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a les images, ces Kurdes irakiens grelottant de froid aux frontières de l'Europe. Il y a les mots, ceux de la Pologne accusant la Biélorussie de terrorisme d'État. Jusqu'où ira cette crise? Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, l'Europe, elle, a mis ses différends avec la Pologne de côté et serre les rangs. Hier à Varsovie, l'exécutif européen a menacé la Biélorussie de sanctions. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter à Sokółka, au nord-est de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière avec la Biélorussie. C'est là que se massent ces milliers de migrants derrière des barbelés à lame de rasoir.
Oui, et en fait, Anaïs, je me trouve dans une situation un peu surréaliste, hein, puisque en général, lorsque l'on part pour couvrir une crise migratoire comme celle-là, on se retrouve, vous le savez, violemment confronté à la détresse des migrants, à des récits de vie fracassés, souvent insoutenables, et l'on s'y prépare. Mais ici, c'est très étrange. Les migrants sont invisibles. On sait pourtant qu'ils sont là, à une poignée de kilomètres, mais ils sont hors d'atteinte des médias, comme nous, mais aussi des ONG. Même le Haut Commissariat aux réfugiés n'a aucun accès à cette frontière. Parce qu'en fait, la Pologne a déclaré la zone sous état d'urgence. Et ce qu'il faut se représenter, eh bien, c'est que l'on ne peut s'en approcher à moins de 3 kilomètres. C'est une zone interdite et une zone de non-droit aussi, puisque l'on sait que les gardes frontières polonais repoussent vers la Biélorussie ceux qui parviennent à franchir une frontière pourtant très hautement sécurisée. Hein. Vous parliez des barbelés à lame rasoir sur 400 kilomètres de long. Eh bien, plus de 15 000 hommes ont aussi été envoyés par Varsovie. On ne passe pas donc. Alors, bien sûr, les refoulements auxquels ils procèdent sont illégaux. Et cette frontière est aujourd'hui, vous le disiez, au centre de la crise politique entre l'Ouest et la Biélorussie, soutenue par la Russie. Elle s'invite même à l'ONU. Mais là n'est pourtant pas l'essentiel pour Anna Chmielskaya. C'est une bénévole dans une ONG. Et ce qu'elle veut que l'on dise aux pays européens, hein, nous dit-elle, c'est que cette crise ici, c'est une crise humanitaire. Nous devons le crier haut et fort, répète-t-elle. Une crise humanitaire. Avant donc d'être politique, nous devons la traiter comme telle. Et pour l'instant, cela dit, Anaïs, eh bien, la détresse de ces milliers d'hommes, femmes et enfants se vit bien loin des yeux des dirigeants européens.
Marie-Pierre Véraud, envoyée de Radio France en Pologne avec Alexandra Bergel. On y revient avec Bernard Guetta à 7h50. Et alors que les relations diplomatiques se tendent, on l'a entendu, entre Russie et Europe, détente inespérée sur le terrain de la diplomatie climatique. Les deux géants que sont la Chine et les États-Unis, premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ont annoncé un accord surprise. Arrivé tard hier soir, à deux jours de la fin de la COP26 à Glasgow. Les États-Unis au début d'une nouvelle ère dans leur relation avec la France. C'est ce qui ressort de l'entretien d'une heure et demie entre le président français et la vice-présidente américaine hier. Objectif, sortir de la crise des sous-marins australiens. Mission accomplie, Benjamin Hilly.
Elle est arrivée à bord d'un imposant SUV blindé de marque américaine. Sur le capot, un drapeau des États-Unis et un drapeau français. Kamala Harris, sur le perron de l'Elysée, accueillie chaleureusement par Emmanuel Macron. Une journaliste américaine tente une question. Avez-vous besoin de vous réconcilier? Je suis très heureuse d'être à Paris. La vice-présidente répond à côté. Direction les salons pour un entretien de plus d'une heure pour parler crise sanitaire, climatique, sécurité, espace, sans oublier quelques politesses échangées devant les micros.
Merci beaucoup d'être à Paris.
Emmanuel Macron poursuit en anglais. nous sommes au début d'une nouvelle ère. Notre coopération est absolument cruciale. Kamala Harris confirme, nous sommes au début d'une nouvelle ère, riche en défis mais aussi en opportunités. Elle appelle à renouveler l'attention donnée au partenariat franco-américain. À la sortie, encore une question sur le perron. Président Macron, avez-vous pardonné à l'Amérique? Un sourire, pas de réponse. En marge du G20 à Rome, après sa rencontre avec Joe Biden, il affirmait que les déclarations de confiance, c'est bien, des preuves, c'est mieux. En attendant les preuves, les déclarations d'amitié de Kamala Harris n'ont pas manqué lors de ce passage à l'Élysée.
Kamala Harris qui assistera aux cérémonies du 11 novembre. 11 novembre bien particulier de l'armistice de la Première Guerre mondiale à l'adieu officiel au dernier compagnon de la libération de la Seconde Guerre. Hubert Germain, décédé à l'âge de 101 ans, il sera inhumé au Mont Valérien. On y revient dans le Zoom après ce journal. Dès ce matin, le cercueil de l'ancien résistant remontera les Champs-Élysées sur un char jusqu'à l'Arc de Triomphe.
Il est 7h06, près de 11 000 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures.
Et ça n'était pas arrivé depuis septembre, ce qui fait dire au ministre de la Santé qu'on est loin d'en avoir fini avec l'épidémie, même s'il faudrait encore attendre deux semaines pour savoir si on est dans une vague, comme en Allemagne, 50 000 contaminations en 24 heures outre-Rhin. Écoutez Olivier Véran hier soir sur TF1.
Ça ressemble clairement au début d'une cinquième vague. La circulation du virus s'accélère, 40% de plus en une semaine. C'est ce que nous avons connu lors des précédentes vagues. La grande différence, c'est que parce que nous sommes massivement vaccinés, parce que nous avons le pass sanitaire, parce que nous respectons les gestes barrières et qu'on se protège les uns les autres, on peut passer cette vague comme on a passé la quatrième, c'est-à-dire on a eu un certain nombre de contaminations, on a eu peu de malades dans les hôpitaux et peu de décès. Donc c'est pourquoi le président de la République insiste pour que celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés le fassent vite, que tous ceux qui sont appelés à recevoir leur rappel le fassent et qu'on continue de faire attention les uns aux autres.
Olivier Véran qui par ailleurs défend le durcissement du pass sanitaire pour les plus de 65 ans comme l'avait annoncé Emmanuel Macron. Parmi les autres annonces du chef de l'État avant-hier, la suspension de l'allocation chômage pour ceux qui ne démontrent pas de recherche active. Les contrôles vont s'intensifier, a prévenu hier la ministre du Travail. Dans le viseur, les chômeurs qui ont bénéficié d'une formation vers les métiers en tension. Question: comment les agents de Pôle emploi vont-ils s'organiser? On voit ça avec vous, Maxime Deps.
Ancienne conseillère Pôle emploi dans le 93, Hélène Ibanez, aujourd'hui secrétaire générale Travail et Emploi à la CFDT, voit dans les mots du chef de l'État surtout un effet d'annonce. Des contrôles existent déjà qui prévoient un mois de radiation au premier manquement constaté, deux mois au second, etc.
Et aujourd'hui, on a un système de contrôle de la recherche d'emploi avec un service dédié entre 600 et 1000 conseillers qui sont chargés d'effectuer soit des contrôles aléatoires, soit des contrôles aussi à la demande des agences.
Et s'il y a demande du gouvernement d'intensifier de 25% les contrôles sur les 6 prochains mois, prévient-elle, mieux vaut prévoir des renforts. La direction de Pôle emploi envisage plutôt de simplifier la procédure de ces contrôles qui d'ailleurs ne vont que rarement jusqu'à la sanction.
Ce qui est important de comprendre, c'est que 25% de contrôles supplémentaires, ça donnera pas lieu à énormément de désinscriptions, j'allais dire, pour insuffisance de recherche d'emploi. Aujourd'hui, sur les contrôles effectués, il y a que 14% qui aboutissent à une radiation pour insuffisance de recherche.
Le reste, dit-elle, ne sont pas des personnes qui ne cherchent ou ne veulent pas chercher un emploi là-dessus. Direction de Pôle emploi et syndicats sont d'accord, mais plutôt des chômeurs désemparés, des décrocheurs qu'il faut réaiguiller vers les solutions les mieux adaptées pour eux.
Maxime Deps, le meurtre de Mireille Knoll était bien un crime antisémite. Yacine Mioub a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Décision hier soir de la cour d'assises de Paris. Son co-accusé Alex Karim Bacchus, acquitté pour le meurtre de la vieille dame, mais condamné à 15 ans de réclusion pour vol aggravé. Là aussi, le caractère antisémite a été retenu. On y revient en détail à 7h30. La tension est retombée d'un cran sur l'île de Saint-Martin. Le barrage routier qui bloquait la circulation depuis 8 jours a été levé. Les habitants demandent, selon les endroits, un bureau de poste, des bornes d'électricité ou de l'eau potable. L'île des Antilles peine à se redresser depuis le passage de l'ouragan Irma en 2017.
Il est 7h09 quand une mairie rachète une boîte de nuit.
Oui, c'est ce qui se passe à Paris après avec le rachat par la municipalité du Tango, un dancing gay dans le quartier du Marais. Un chèque de près de 7 millions d'euros pour acheter cet immeuble et y construire des logements sociaux et surtout sauver ce lieu historique de la vie nocturne. Car avec la crise sanitaire, nombreux sont les théâtres, les salles de concert qui ont perdu beaucoup d'argent et ce sont les pouvoirs publics qui bien souvent viennent au secours. Le tango espère donc renaître de ses cendres. Reportage de Thibault Lefebvre.
La discothèque s'appelait la boîte à frissons pendant l'entre-deux-guerres, puis le tango depuis la fin des années 90.
Le tango, pour moi, c'est une grande histoire d'amour.
Avec sa décoration kitsch et sa programmation musicale d'un autre temps.
Ça sonne terriblement tango, oui.
Le tango a beaucoup manqué à Julien, habitué depuis plus d'une quinzaine d'années des bals du week-end.
Tous les danseurs et danseuses qui participaient au bal ont qu'une hâte, c'est que ça réouvre. J'ai envie de retrouver mes danses à deux, j'ai envie de retrouver mon DJ. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là.
Comme le tango, le Bataclan ou la Flèche d'Or ont été rachetés par la mairie de Paris et le phénomène touche aussi, mais dans une moindre mesure, les métropoles en région. À Toulon, par exemple, un ancien cinéma du centre-ville a été repris puis désamianté avant d'être transformé il y a une dizaine d'années en théâtre. Valérie Pecht est la directrice générale des services de la métropole.
C'était essentiel de sauvegarder cet espace. Partout, vous avez des friches, tous des grades autour. Et il n'était pas question de laisser se dégrader ce quartier qui est le centre de la ville de Toulon.
L'ouverture du théâtre a permis d'attirer du monde dans le centre-ville avec un taux de remplissage moyen des trois salles de près de 90%.
Et du monde, Paris Photo en attend. La plus grande foire mondiale de la photographie ouvre ses portes. Aujourd'hui, un secteur qui a plutôt bien résisté à la crise. On y trouve 149 galeries, 28 pays. Et que trouver dans cette foire, Isabelle Pasquier, des valeurs sûres et des jeunes?
Paris Photo, c'est la vitrine grand angle de la photo avec des historiques Cartier-Bresson, Man Ray, Robert Frank, Herbert List, Sabine Weiss, Viviane Mayer, Richard Avedon, un portrait d'adolescente à plus de 2 millions de dollars, mais aussi avec un zoom sur les femmes photographes. Jane Evelyn Atwood, Valérie Belin, Pilar Albarracin. Autre focus, la photo africaine, adulée par les collectionneurs. Le photographe sénégalais Omar Victor Diop présente Allegoria, une série sur l'environnement où il se met en scène en tenant des saumons, une biche, une tortue, dans une nature idéalisée, humour surréaliste et lucide.
J'ai envie de provoquer une empathie pour ces choses vivantes dont nous sommes les voisins et pas les propriétaires. J'imagine le jour où les animaux qui sont dans les contes pour enfants ne seront que sur papier, mais ne seront plus dans la nature. On est souvent absent dans les grandes conversations à propos de l'environnement. Cette série y contribue un peu et puis montrer aussi qu'on peut très bien être un Sénégalais en boubou vivant à la porte du Sahara et se soucier du sort des ours.
Enfin, pour commencer une collection avec moins de 1000 euros, des photos vernaculaires d'amateurs, des photos de famille, des nus d'époque anonymes, objets de tous les fantasmes.
Et Paris Photo, c'est jusqu'à dimanche au Grand Palais éphémère à Paris.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes au Mont Valérien, la dernière demeure du dernier compagnon de la Libération.